I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duo et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guy Lamège. Réalisation signée Assia Khalid. Ce soir, Marie-Josée Sirach et René Solis se font face à notre affiche Bal de Bertolt Brecht, mise en scène Christine Le Tailleur, actuellement à l'affiche de La Colline. Et puis L'abattage rituel de Georges Mastromas de Denis Kelly, mise en scène de Chloé Dabert, actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris. Nous évoquerons aussi plus rapidement La Chose commune, composition musicale Emmanuel Bex, mais texte et mise en scène David Lescaut, en ce moment au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin, puis en tournée. Showroom de Suzanne Joubert, un ouvrage publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs, adapté à la scène par Marie Vessière, Arnaud Soris, Suzanne Joubert au Théâtre Joliette Minoterie à Marseille. Dans quelques jours, vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler de l'appel du monde de la culture contre le FN. En fin d'émission, Boris Pino passera un coup de fil à Estelle Savasta, auteur et metteur en scène. Et puis bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des coffrets DVD Barbet Schroeder, 5 films édité par Carlotta. Et direction pour commencer La Colline à Paris pour un spectacle qui poursuit sa vie en tournée après sa création le 21 mars au Théâtre National de Bretagne. Notez qu'il est présenté à La Colline avec le Théâtre de la Ville hors les murs. Bal, c'est donc la première pièce de théâtre écrite par Brecht en 1819. Bientôt un siècle. Il reprendra d'ailleurs cette écriture de pièce à plusieurs reprises pour la modifier, mais c'est bien la version de 1919 dans la traduction d'Éloi Recoin, publiée à l'Arche éditeur, qu'a choisi Christine Le Tailleur. Pour la résumer, disons qu'elle raconte la vie d'un jeune poète maudit avec beaucoup d'influence Arthur Rimbaud. C'est Stanislas Nordet qui poursuit là sa collaboration avec la metteur en scène et qui incarne donc le rôle titre. Lisons encore cette recommandation de Brecht, je cite, à l'attention des comédiens tentés par l'extrême. Quand ils ne s'en sortent pas avec la médiocrité, Bal est une nature ni particulièrement comique, ni particulièrement tragique. Il a le sérieux de la bête. Fin de citation.
Pourquoi votre merde vaudrait-elle toujours mieux que votre bouffe ? Les gens qui vous en ont persuadé sont les mêmes qui vous donnent votre bouffe et recueillent votre merde. Jeune homme, la vanité vous rend idiot. Pas un ne vit. Tous veulent régner. Tous ne veulent que régner. Ce n'est pas de l'ambition, rien que de la vanité. Le ciel est violacé. Les lits sont blancs. Et vous, vous êtes gris. Il en est une parmi vous dont les cuisses tremblent à cet instant. Sous la robe précisément, toutes vous êtes nues. Celle-ci est idiote et vulgaire, mais elle a les hanches tendres et n'est jamais repue. Celui-là s'éjacule dessus et s'achète des images propices à cet effet. Celle-ci trompe celui-là qui est un monstre avec cet autre prétentieux. C'est très amusant, même si ce n'est qu'à moitié, l'amour est là, entre ciel et terre. Dans l'obscurité, les corps ont vite fait de se presser les uns contre les autres, subrepticement, et trouvent toujours le chemin. Vous aussi, vous êtes des porcs. Ne faites pas semblant, et ça me plaît. C'est encore la meilleure part de vous, croyez-moi, le nec plus ultra. Vous êtes complètement corrompu, mais votre vin est bon.
On vient d'entendre donc Stanislas Nordet dans un de ses diatribes qui jalonnent ce texte Bal. Mise en scène ici, Christine Le Tailleur. J'ai dit, ça fait un certain nombre de fois, 4 ou 5 au moins, que Stanislas Nordet est l'interprète de Christine Le Tailleur. Marie-Josée Sirach, pour commencer sur ce spectacle.
Oui, comme vous le disiez, Bal, c'est un être assez torturé, un poète, un voyou, un adolescent qui n'a rien à perdre et qui voit surtout, qui a les yeux grands ouverts sur la médiocrité du monde. Et cette lucidité-là, plutôt que... Enfin, le pèse, puisqu'il en veut à la terre entière, quand même. Et donc, il séduit les femmes, il séduit les hommes, il les maltraite, il les abandonne, il est d'une violence inouïe à leur égard. Et c'est un drôle de personnage, alcoolique aussi. Voilà, et c'est un texte, et comme vous le précisiez, c'est la première ou deuxième version de Brecht. C'est un texte de jeunesse, donc c'est le Brecht qui sort... qui sort de la Première Guerre mondiale, c'est la révolte spartakiste qui a été quand même écrasée dès 19, tout début 19, hein, c'est ça, si je ne m'abuse.
Je parle sous le contrôle de René Solis.
Je regarde
film,
René, mais qui...
qui y était, donc il peut effectivement
voilà, mais confirmer. Son grand et ça fait écho aussi, c'est très étrange, je trouve qu'il y a aussi ce Bal anarchiste, mais qui est l'héritier des anarchistes de la Commune de Paris, voilà, de la guerre de 1871 avec la Prusse. Donc, il y a tout ça qui est là où finalement l'avenir n'est, voilà, on ne sait pas vers quoi on va, et il porte en lui une colère terrible, et il s'adresse à aux gens qu'il a autour de lui, qu'il admire en même temps, qui sont fascinés parce qu'il dégage quelque chose qui va au-delà. Et c'est quand même la marge, tous ces personnages, parce que c'est une pièce où il y a énormément de personnages, et sont tous des personnages comme lui, voilà, qui sont qui vivent dans des no man's land comme ça, dans un entre-deux. Donc voilà, c'est un travail intéressant, parce que c'est un texte qui en même temps rugueux, méchamment rugueux, et je trouve que bouillonnant, désordonné, et je trouve que, en tout cas, le parti pris de Christine Le Tailleur, c'est presque de l'ordonner, de l'apaiser avec tout un travail autour des lumières, de projections expressionnistes sur les murs, au sol, des poses, enfin une espèce de retenue comme ça, qui fait que, voilà, on a un Bal, non pas qu'il me déçoive, mais je pense qu'il aurait peut-être pu être encore plus punk qu'il ne l'est sur scène. Voilà, avec des acteurs, Nordet, moi je le trouve quand même incroyable, parce qu'il n'a absolument pas l'âge de Bal, mais il est...
Loin s'en faut.
Je trouve qu'il le joue bien, quoi, son Bal, physiquement il est là, il a un corps d'adolescent, c'est, à son âge, je trouve ça, je suis jalouse. Il y a Vincent Dissès dans le rôle des cartes, qui est son ami, amoureux, amant, enfin voilà, où ils ont des rapports extrêmement violents entre eux, qui est formidable. Je suis plus nuancée sur les filles, je trouve qu'elles hurlent un peu trop.
Trop systématiquement, peut-être. René Solis, premières impressions sur ce Bal version Le Tailleur.
Oui, alors vous avez rappelé les références des contextes historiques. C'est une drôle de pièce, hein. C'est une pièce très, très attachante en même temps, on peut dire. Mais moi, j'ai un faible pour les premières pièces de Brecht. Donc, voilà.
Cette version, pour vous, c'est une bonne chose plutôt que des versions ultérieures?
Oui, je pense que c'est
d'ailleurs celle-là qui est le plus souvent montée, hein.
Oui, je pense que c'est bien de partir de celle-là. C'est une pièce qui est moins difficile, si on veut, que La Jungle des Ville, qui est celle qui vient juste après, mais qui est donc c'est très frappant. Il écrit ça donc en 18-19, donc, et donc au lendemain de la guerre, et en même temps ça raconte l'histoire d'un cheminement de la paix vers la guerre. C'est-à-dire c'est la première scène est une scène finalement de paix, puisque il est invité, c'est la consécration, c'est le poète obscur qui travaille dans un bureau, qui est invité par son chef à une réception, et il est présenté à la bonne société comme le futur grand poète, et à partir de là, au lieu d'en être content, c'est presque le déclencheur de sa déclaration de guerre au monde, et donc il les insulte, on entendait ça à la première scène, et ensuite c'est une espèce de... Pardon.
Pour l'espèce
de descente aux enfers, on va dire, en plusieurs stations. Alors, il y a les figures que vous avez évoquées. Il y a Brecht qui convoquait aussi la figure de de François Villon comme figure tutélaire du poète maudit, ou plutôt du poète mauvais garçon d'ailleurs,
enfin, oui, pas
voyou. Du poète voyou, ouais. du violeur, de l'assassin, etc. Donc on entend donc tout ça est présent. Et alors, un des grands mérites de, je trouve, la mise en scène de Christine Le Tailleur, vous l'avez dit, Marie-Josée, c'est la clarté. Il y a quelque chose, on entend très bien ce texte. Et du coup, moi, j'ai entendu aussi d'autres choses que j'avais pas forcément entendues dans d'autres versions de Bâle, que j'ai pu voir d'autres mises en scène, c'est les références théâtrales. Et alors, il y en a une que je trouve très forte, c'est celle à Ibsen et à Peer Gynt. Et à cause du rapport à sa mère, en particulier, et puis de la façon dont ce voyage initiatique, qui est en fait une descente aux enfers, moi j'ai entendu des échos d'Ibsen. On entend aussi des échos de évidemment du Voysec, de Büchner, qui reste le grand texte comme ça du théâtre allemand, évidemment aussi à l'époque de Brecht. Donc on entend ça. Donc on entend très bien cette dimension, la portée poétique, on va dire, et les références de la pièce. C'est vraiment une première pièce qui est chargée de beaucoup de choses, et de poésie et de références théâtrales. Il a mis beaucoup de choses dedans. Et je trouve que oui, là, il y a une clarté. Qui est dû aussi à l'interprétation de Stanislas Nordet, qui fait qu'on entend ça bien, c'est plutôt bien mené, c'est plutôt bien fait. Et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est par moment peut-être un peu trop bien fait. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas vraiment pourquoi elle monte ça en ce moment maintenant. C'est-à-dire il y a comme un côté théâtre de presque de répertoire, et c'est drôle parce que Christine Le Tailleur est quelqu'un qui a toujours été, enfin au début en tout cas de sa carrière de metteuse en scène, très attirée par des textes sulfureux et des expériences limites. Je me souviens le premier spectacle que j'ai vu d'elle, qui était absolument magnifique, qui était il y a 15 ans au sous-sol du Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Elle exhumait un texte totalement inconnu, une découverte, qui était la Médée de Hans Henny Jahn. Et c'était formidable, c'était d'une simplicité, c'était lumineux. Alors ensuite, elle est revenue à Hans Henny Jahn avec une pièce extrêmement difficile, qui était Pasteur Ephraim Magnus. Elle a continué à toucher des textes comme ça, à aller vers des textes un peu sulfureux, mais j'ai l'impression que peu à peu, c'est comme si elle est rattrapée par le fait qu'elle a un savoir-faire, une aisance, une capacité surtout à lire les textes, à les comprendre. Elle a fait du bon boulot de dramaturge. Mais sortant de ce bal, je me disais, oui, voilà un spectacle bien fait de plus, et pas un cri de quelque chose, de colère, de d'interrogation, voilà.
Vous en ressentez la même chose, Marie-Josée Sirach, sur la question de la nécessité de monter ce oui, bal aujourd'hui.
Ce qui m'a, en y réfléchissant, je me disais, pourquoi prendre aujourd'hui pour modèle, si je puis dire, un anti-héros. C'est-à-dire, c'est un anti-héros, quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas porteur d'utopie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte en lui autant de révolte que de colère, que de désespoir. Ce serait peut-être un punk, aujourd'hui, on l'aurait peut-être qualifié de punk, il serait dans le no futur. Et ce qui m'interroge, c'est de vouloir monter des pièces dont les héros, finalement, n'en sont pas et ne veulent pas être des héros. Et ne sont pas porteurs d'utopie, ne sont pas porteurs... Voilà, et je me dis, tiens, c'est curieux, alors que peut-être s'il y a un endroit où l'utopie peut donner encore à réfléchir, à rêver, c'est le théâtre. Donc, non pas que la pièce... enfin voilà, donc c'est voilà, pour moi c'est un peu curieux, et c'est là où je suis un petit peu, effectivement, je partage un petit peu votre avis, René.
Non, mais si elle faisait entendre justement ce anti-héros dans toute sa force destructrice et cynique, peut-être alors à ce moment-là, oui, on retrouverait quand même quelque chose d'une prise de position, d'une volonté de dire quelque chose politiquement sur l'époque. Là, je trouve qu'on reste quand même un peu entre les deux. C'est-à-dire que cette dimension-là du personnage, du anti-héros, comme vous le dites, de celui qui est dans une espèce de destruction, de cynisme, mais qui est pas du tout un cynisme social, qui est un cynisme individuel et autodestructeur.
Très égoïste,
hein. Donc il y a une dimension pathétique, évidemment, aussi dans le personnage. Il y a un côté attachant. Et tout ça, Stanislas Nordet le joue. Il est attachant, il est exaspérant, il est insupportable. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui reste finalement assez corseté, paradoxalement assez sage dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a, c'est vrai, c'est un personnage antipathique et ambigu et sympathique aussi. Et on entend bien sa rage destructrice, mais on l'entend et on la ressent pas. Voilà, il y a plutôt quelque chose comme ça.
Oui, non, parce que je repense à Inkerman d'Ernst Stoller qu'elle avait monté en 2014 avec Nordet dans le premier rôle, et qui était une pièce qui m'avait beaucoup plus touchée, beaucoup plus bouleversée, parce que il y avait quelque chose de l'ordre d'un nouveau monde à venir avec cet homme qui sortait complètement détruit, meurtri dans sa chair par la Première Guerre mondiale, par les tranchées, et que là, effectivement, là, c'est une espèce de révolte, enfin, c'est une révolte. Individuel, hein. c'est là où c'est le Brecht, voilà, c'est ça dit aussi cette époque là où à un moment donné Brecht après va basculer dans autre chose, mais ça dit aussi ce tâtonnement politique au sortir de cette Première Guerre mondiale où il faut détruire ce monde, ce vieux monde là ne peut plus durer, il faut aller vers quelque chose, quoi, on ne sait pas trop. Donc son bal, il tâtonne, il est là, il, et d'abord il s'en prend, il est peut-être lui sa première victime. Hein.
Sur la direction d'acteur ou d'actrice, René Solis, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les critiques sur un certain déséquilibre dans la direction et dans la distribution, peut-être aussi, René.
Je partage aussi un peu certains questionnements sur la... Je ne peux pas dire que la distribution soit d'un équilibre très marquant. C'est lié aussi à la scénographie. Je trouve que elle reprend une scénographie qu'elle avait déjà, des principes qu'elle avait déjà utilisés dans, si je me souviens bien, dans Les Liaisons dangereuses, qui est la scénographie à étage, en fait, hein, de jouer sur.
Scénographie qu'elle co-signe avec Emmanuel Clolus.
Et il y a quelque chose qui est plutôt réussi d'un point de vue visuel, ce que vous avez dit sur les projections, il y a encore une fois un décor soigné, on va dire, pour la chose. Mais je n'ai pas l'impression que ça favorise beaucoup la communication et la proximité des acteurs entre eux sur scène. Donc il y a quelque chose qui fait qu'ils sont un peu éparpillés, un peu dispersés. Et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment qu'ils sont tout le temps ensemble. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là, je trouve.
Oui, ils sont même seuls, oui. Souvent. Seul, mais c'est vrai, hein, en se promenant dans ces couloirs, dans cet échafaudage, il y a des solitudes, quoi,
oui,
qui ne se croisent pas.
Ouais. Alors, peut-être est-ce voulu, là
oui,
encore,
peut-être,
c'est possible, mais...
Mais,
il manque, là aussi, quelque chose.
Bal de Bertolt Brecht, version de 1919, donc c'est celle qui est mise en scène par Christine Le Tailleur. En ce moment, et jusqu'au 20 mai à la Colline à Paris, avec le Théâtre de la Ville. Il y aura d'autres dates ensuite à la Maison de la Culture d'Amiens, les 23 et 24 mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
À suivre dans la dispute, Denis Kelly, Chloé Dabert, David Lescaut, Suzanne Joubert, Estelle Savasta. Avant cela, nous suivons Xavier Martinet dans le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir.
Pour changer un peu, ce soir, on va parler de politique.
Eh oui.
Ça nous change quand même. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps dans l'actualité
politique,
non plus.
Politique culturelle, disons.
Oui, bah c'est celle qui nous intéresse, voilà. Ici. Mais enfin bon, est-ce qu'il y a une politique culturelle qui n'est pas une politique ? Bon, non, je vous laisse commencer, puis après on va débattre. Ça va être plus simple dans ce sens-là.
Voilà, puisque vous l'annonciez, on parlera de l'attitude des milieux culturels envers le Front National, en commençant par ce résultat qui est historique. Il fait reposer sur moi, désormais, la responsabilité de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, affirmait hier soir Marine Le Pen, évoquant ensuite les 1500 ans d'histoire française. Ce triomphe, donc, d'une certaine vision patriote de la fierté intervient après et malgré d'innombrables dénonciations et appels du monde de la culture, à commencer par celui publié dans Libération il y a 20 jours et réunissant une centaine d'artistes, d'Ayam à Jeanne Moreau, en passant par Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, qui appelle donc à un vote de barrage contre la candidate du Front National. À la grandeur de la France, de Jacques Cartier à Diderot, dessiné dans le discours de novembre de Marine Le Pen, seul et unique discours consacré par la présidente du Front National aux politiques culturelles, souligne Elena Scapaticci dans le Figaro, ils opposent ces signataires une France, disons, plus nuancée de l'acceptation intellectuelle et des frontières de la pensée, en ajoutant Claude Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir, en passant par Rabelais et Django Reinhardt. Bien sûr, un seul discours, alors que pourtant, la culture devient un sujet primordial pour le parti de Marine Le Pen à un moment où elle n'a pas vraiment l'air d'être la priorité des partis traditionnels. Oui, nous vivons une époque où le Front National assume un discours sur la culture clair et construit, tristement édifiant, et cela doit désormais nous alerter, affirme là la trentaine d'artistes signataires d'un autre appel en février, appel dit de Fréjus et retransmis par Le Monde. Il y a deux motifs d'inquiétude importants dans le Var, en effet, terre et laboratoire historique du Front National. D'abord, la gestion culturelle de la ville de Fréjus. Fréjus, ville romaine, ville d'art et de culture, mais aussi Fréjus, ville Front National depuis 2014, avec à sa tête le plus jeune sénateur de France, David Rachling, souligne également l'appel. David Rachling, qui est directeur de campagne de Marine Le Pen aussi. Cet appel suivait un manifeste pour Fréjus d'une élue Les Républicains locale, Françoise Covel, qui, dans un pamphlet anti-FN, comme le dit Var Matin, fait, elle, une dénonciation minutieuse de la gestion culturelle à Fréjus, avec en outre une polémique sur l'attribution du poste de direction de l'Action culturelle et du patrimoine, et puis surtout une impression d'inquiétant déjà vue, je cite Françoise Covel, impression d'inquiétant déjà vue où culture et patrimoine sont devenus aujourd'hui à Fréjus des outils politiques majeurs de captation des consciences par le Front National. Un mois plus tard, Var Matin dresse le bilan. Il faut reconnaître que Covel a su capter l'attention des milieux culturels et de conclure, pas si mal pour un début. Deuxièmement, cet appel de Fréjus répond aussi plus largement aux propos tenus sur l'art contemporain de Marion Maréchal Le Pen à la clôture de l'université d'été du FN en septembre 2016. À Fréjus justement, déclaration fantasque ou carrément scandaleuse, disent les Inrocks dans un article assez fouillé. Ces déclarations, vous les avez peut-être entendues. 10 bobos qui font semblant de s'émerveiller devant deux points rouges sur une toile, car le marché de la spéculation a décrété que cet artiste avait de la valeur, n'est pas franchement ma conception d'une politique culturelle digne de ce nom, disait Marion Maréchal. Cible ici les expositions d'EFRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, au bénéfice, continue Marion Maréchal, d'esprit manifestement dérangé. Elle le dit dans un numéro spécial du Monde sur le FN et la culture. Sans préjuger alors de ses idées esthétiques, peut-être préfère-t-elle les portraits qu'elle a reçus d'une nationaliste russe à partir de début avril, un triptyque que vous avez peut-être vu aussi, montrant Vladimir Poutine, Donald Trump et Marine Le Pen, l'œil clair fixé sur l'horizon et le front haut, outrageusement rajeuni dans la plus pure tradition du réalisme socialiste, écrit le Huffington Post. Marine Le Pen a ensuite tenté d'arrondir les angles avec sa propre tribune, sans trop de succès. Se sont ensuivies ses lettres ouvertes, tribune d'Olivier Py dans Le Monde, ou une journée du point rouge à la friche de la Belle de Mai le 28 novembre. Mais une nouveauté soulignée par Françoise Covel interroge quand même, je la cite, l'utilisation du divertissement populaire pour faire vitrine dans un contexte où certains artistes ne rechignent plus forcément pour différentes raisons à apparaître en territoire FN. Je rappelle qu'en 1996, Gérard Paquet, le directeur du Théâtre National de la Danse et de l'Image à Château-Vallon, avait refusé la subvention de la mairie FN. Au lendemain de ce premier tour, c'est un peu la surprise, notre Zoé Sfez ce matin sur France Culture. Pas de réaction des artistes. Globalement, les artistes ne se mouillent pas durant cette campagne, estime Marie Campistron dans l'Observateur il y a 3 jours. Est-ce juste ou pas? Et puis depuis 20 ans plus largement, quels effets ont eu ces prises de position?
Alors, des artistes qui se mouillent, il y en a depuis un certain temps, et ces appels que vous signaliez, évidemment, Xavier Martinet, notamment beaucoup du monde du théâtre, hein, c'est une vieille habitude, c'est peut-être dans les gènes du monde théâtral, René Solis, sous-mobilisation et poids de la mobilisation quand elle existe?
Non, je crois pas qu'il y ait une sous-mobilisation, et j'imagine qu'on va voir fleurir dans ces prochains jours des appels en tout genre. Donc, en tout cas pour ce qui concerne le monde du théâtre, mais pas seulement les arts plastiques aussi. On peut dire que la mobilisation, les appels contre le Front National ont toujours été voilà une constante importante, donc je crois pas qu'il y ait de silence ou qu'il soit tétanisé. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que ce discours du Front National sur la culture, d'abord il s'est un petit peu comment dire, complexifié, parce que il y a dans le programme du Front National des choses qui sont parfaitement saugrenues s'agissant du Front National, mais il y a le soutien aux créateurs, il faut renforcer la politique de soutien à la création, il y a tout et n'importe quoi, hein, mais ils ont élaboré quelque chose d'un peu plus, en tout cas un tout petit peu plus complexifié que les déclarations de Marion Maréchal Le Pen, qui soit dit en passant, sont guère différentes de déclarations de beaucoup de politiques de droite et même quelquefois, allons-y, de gauche. C'est-à-dire que ce qu'elle dit sur l'art contemporain et sur les deux points rouges...
Luc Ferry l'écrit régulièrement dans le Figaro.
Oui, voilà, c'est ce que beaucoup de gens écrivent. Et c'est, après tout, c'était aussi le sujet de art de Yasmina Reza, d'une certaine façon.
Oui. Et donc, qui va être repris par les Tégestades. On y sera au Théâtre de la Bastille bientôt.
Donc, on est quand même là dans... on peut dire que... c'est pas que le Front National a gagné la bataille culturelle, mais on peut dire quand même que... on l'a dit, c'est évidemment pas très original, qu'il y a une bataille culturelle qui a été gagnée par la droite, et par la droite la plus conservatrice ces dernières années, et que donc ces idées qu'on entend sont des idées qui sont partagées très largement, que le populisme et l'idée aussi qu'il faudrait que les artistes se mettent un peu plus au service des politiques, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend à peu près plus à droite qu'à gauche, mais qu'on entend aussi à gauche, et qu'on entend évidemment dans le Front National. Donc, ce qui est plutôt frappant, c'est comment ce discours réactionnaire sur l'art, sur la création, a tendance à être, sinon majoritaire, du moins assez puissant. Et donc, je séparerai pas tant que ça, de ce point de vue-là, le Front National de une bonne partie de la classe politique, on va dire.
Marie-Josée Sirache.
Alors, je vais rebondir sur l'idée de la bataille culturelle gagnée par la droite. Moi, je me demande si la bataille culturelle n'a pas été perdue par la gauche, et notamment le Parti Socialiste, qui est au pouvoir quand même depuis quelques années. Donc, pardon, mais de le dire comme ça, mais c'est... Je pense parce que... et puis dire que le Front National complexifie sa politique culturelle, ils ont 9 points qui sont extrêmement inquiétants, qui ne sont pas neufs, qui sont assez simples, qui sont compréhensibles très très simplement, et qui quand même ne font qu'amplifier ce qu'on peut entendre depuis l'élection des maires Front National en PACA, Vitrolles, c'était Marseille, hein, c'était à côté de Marseille. Donc, quand Maigret prend la ville à Vitrolles, d'abord, il la rebaptise Vitrolles en Provence. Il ferme le sous-marin, qui était la salle de rock alternatif. Et à partir de là, tient des discours, lui et ses pairs, à Toulon, pour dénoncer l'art dégénéré. Et donc, on est vraiment dans ce droit fil-là. On revient, il y a tout un discours sur l'histoire glorieuse, sur les racines, sur la langue, sur l'identité, qui sont martelés en permanence, de manière... Et quand on regarde dans les villes tenues par le Front National... ce qui était très très instructif, c'est de lire leurs journaux municipaux, qui sont extrêmement travaillés, que ce soit à Hénin-Beaumont ou à Béziers, et les éditoriaux qui ne sont pas signés, mais on soupçonne que c'est quand même Ménard qui les écrit, parlent sans cesse de culture, du Sud, qui l'oppose à la culture bobo parisienne, dans lesquelles il est question de faire des férias, du son et lumière, de la culture populaire, c'est-à-dire on tord le mot populaire, qui est en vrai populiste et démago, on donne du... C'est le cirque, c'est les jeux du cirque. C'est
oui, mais
du
ce pain discours-là, il n'est pas propre au Front National.
Non.
Oui, vas-y. Et alors qui?
Laurent Wauquiez fait ça dans la région Rhône-Alpes.
Oui, il y a Ronald. Oui, il y a une partie de la droite extrême, effectivement, qui s'engouffre là-dedans.
Oui, et ça, je suis d'accord. J'ai pas préparé mes dossiers avant de venir, donc. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qui hélas, dépasse assez largement le cadre du Front National. Oui.
Alors peut-être parce qu'en face, la gauche n'a pas su renouveler une politique visionnaire pour la culture. Ça, c'est évident, parce que. On est Mais, on
mais
a,
c'est vrai que ce type de discours est très partagé. Hein. Je rejoins René Solis là-dessus. On le voit, c'est plutôt à l'échelle des municipalités ou des agglomérations de, agglomérations de communes. Comment on dit ça? Non, c'est pas le mot que je...
Communauté d'agglomération.
Communauté de communes.
Oh
là là, oui. Voilà. Gaël Martinet, hein, puisque vous intervenez.
Oui, puisqu'on parle de culture divertissante comme vitrine, si c'est bien ça, le sujet un peu plus large que le Front National aussi. C'est vrai que Marie-Josée, on évoquait ça juste avant l'émission, l'affaire Abdel Sefsaf qui avait eu au théâtre de Roanne, donc près de Saint-Étienne, après donc d'autres élections municipales plus récentes, municipalité républicaine, où on voyait aux prises effectivement ce directeur de théâtre qui préférait, si je me souviens bien, une programmation plutôt, disons, sélective, plutôt choyée, alors que c'est vrai qu'il y avait un choix de la ville, on le voyait pour deux institutions, pas seulement le théâtre d'ailleurs, qui se tournait plus vers effectivement des grands noms de la culture qu'on appellerait populaire, du divertissement. On a là aussi un choix et un parti pris.
Et du folklorique.
Et du folklorique, peut-être beaucoup plus large qu'un projet culturel, disons, typiquement réactionnaire. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Non. Alors, plus.
Quand je dis folklorique, je précise que je ne suis pas anti-folklorique.
Non, hein,
c'est une question de les folklores.
Vous avez raison que quand la droite a repris certaines municipalités lors des dernières élections municipales, il y a le cas de Roanne, il y a le cas du Blanc-Mesnil, le forum culturel.
C'était la gauche.
Non, c'est la droite qui a repris le Blanc-Mesnil.
Si je me souviens bien...
C'est la droite, là.
Vérifions, si vous voulez, mais si je me souviens bien, les problèmes au Blanc-Mesnil ont commencé alors, bien avant la droite, et il y avait déjà une dénonciation de la part de la municipalité socialiste du Blanc-Mesnil, d'une politique du forum culturel du Blanc-Mesnil qui était jugée trop élitiste.
Oui, il y avait une soirée avec Tasca et Ralit pour dire non, et d'ailleurs,
donc,
du coup, ils avaient reculé.
Donc, c'est pas eux qui ont commencé.
Non, ce que je veux dire, c'est que quand même là, le forum culturel qui a permis à des gens comme Benoît Lambert, Demarcy Motta, enfin d'émerger, aujourd'hui, il fait juste de la diffusion, donc il n'est plus un centre de création.
Dans ce cas précis, la gauche locale avait préparé le terrain.
Ça y est, le tutoiement ressort.
Pardon, mais c'est pas vrai. Enfin, quand on fait le bilan de 20 ans, 25 ans de forum culturel, c'est quand même une pépinière, le forum culturel.
On est d'accord.
Il a joué un rôle important, et sous la gauche. Et c'est le coup d'arrêt contre le forum culturel, ce moment de l'élection, de l'arrivée de ce nouveau maire de droite extrême qui a une étiquette LR, mais qui s'est empressé, de virer l'équipe en place, et par exemple de faire le ménage dans les bibliothèques, et d'enlever des livres, et de désabonner beaucoup de journaux qui le jugeaient, qui n'aimaient pas. Voilà.
Xavier Martinet ?
Oui, on va sortir un peu de la problématique FN, mais je voulais juste le dire, puisqu'on en parlera demain, que effectivement cette différence entre une programmation, disons, qui se veut exigeante et sélective, porter l'excellence, par exemple, française, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le projet de festival de série vers Lille, alors que du côté de Cannes, on ne se prive pas, du côté du maire, d'annoncer un festival qui sera glamour et à la fois populaire et à la fois en même temps exigeant. Donc je pense que là-dessus, on a vraiment deux choix de programmation culturelle qui parfois vont effectivement, qui dépassent la question du Front National et de la répression qu'il peut y avoir à l'égard de certaines associations culturelles également.
C'est bon, on s'arrête là pour ce soir. Bon, vous vous tutoierez de nouveau après l'émission, ne vous inquiétez pas. On referme les portes de ce petit salon. Et découvrons à présent vos recommandations particulières, l'heure des coups de cœur, parfois des coups de griffe, hein, mais vous avez plus de cœur que de griffe. Marie-Josée Sirach.
Oui, alors j'aimerais recommander chaudement la nouvelle création de David Lescaut et d'Emmanuel Bex, La Chose Commune, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Ville, encore quelques jours, jusqu'au 29 avril. La Chose Commune, c'est un spectacle musical, un cabaret musical, qui raconte, et ça a été écrit par David Lescaut, qui est auteur, et qui est acteur et musicien, qui raconte la Commune de Paris. Les deux mois, du 18 mars 1971 jusqu'à la fin, en mai, le 22 mai 1971, et la semaine sanglante et la répression. Voilà, donc c'est un spectacle chanté, joué, accompagné de trois musiciens. Donc je citais Emmanuel Bex, mais il faut que je cite aussi...
Vous avez le dossier peut-être pas
Simon Goubert à la batterie, voilà, et au chant Élise Caron qui est formidable, Mike Ladd qui est un rappeur américain mais qui me donne des frissons, Géraldine Laurent.
Vous avez dit mais, je vois pas pourquoi rappeur américain mais qui me donne des frissons. Bon, ça,
non,
ça
non,
vous
qui
regarde.
Me donne des frissons et puis parce qu'il est vraiment dans la lignée des Las Poètes, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement, c'est formidable parce que il a écrit, il a coécrit des textes et lui chante en anglais. D'ailleurs, c'est surtitré et Géraldine Laurent au saxophone. Moi, j'ai retrouvé un peu l'esprit de Charlie Haden et son Libération Orchestra, c'est-à-dire que c'est vraiment un théâtre, voilà, qui fait partager ce moment-là historique, qui n'est pas anodin dans notre histoire, même s'il est peu connu ou peu étudié. C'est des portraits. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de place est accordée aux femmes, à ces héroïnes-là de la commune. Elles étaient nombreuses. Elles n'ont pas eu le droit de vote, mais elles étaient très très actives. Voilà, et je trouve que c'est simple, c'est voilà, du texte, de la voix, des musiciens magnifiques, vraiment des jazzmen assez impressionnants. Et ce qui est curieux, c'est que ça se joue au théâtre de la ville. Alors que ça devrait se jouer dans des lieux un peu à l'espace Cardin, voilà. Mais je sais que ça va jouer au Triton à Paris, après il y aura une tournée et à Jazz in Marciac, voilà, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une belle réussite, et dans les textes, et dans les chants, et dans David Lescaut qui se lame presque, enfin c'est vraiment bien.
La chose commune, donc effectivement jusqu'au 29 avril au Théâtre de la Ville à l'espace Pierre Cardin, Jazz in Marciac ce sera le 1er août, et puis la saison prochaine à la Comédie de Caen en octobre, également au Triton, puis à Jazz à Nevers, ce sera le 15 novembre dans ce festival, et comme René Solis soigne ses espèces, vous allez me soigner vos petits voilà, Marie-Josée Solis. Cirage, ce sera le prochain gage. Ça fait plusieurs fois donc, que je vous marie.
Oui,
j'ai pas. Non, c'est, bon, n'y voyez rien de suggéré. René Solis, Showroom.
Oui, alors Showroom, texte de pièce de Suzanne Joubert, qui va être créé, alors qui a déjà fait l'objet d'une mise en scène en Suisse au mois de novembre, et qui va être créé demain à Marseille, au théâtre Joliette Minoterie, avec une comédienne, Marie Vessière, et Arnaud Sori. Donc je n'ai pas vu le spectacle, donc je voudrais parler
de ce
texte qui est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Il m'arrive rarement de parler d'un texte qui vient de sortir, qui est joué au théâtre, et de parler du texte et pas de la mise en scène. Je préfère évidemment toujours, quand un texte contemporain est monté, voir et pouvoir parler du spectacle. Je ne pourrais pas aller à Marseille voir le spectacle, et pourtant j'ai décidé de parler de cette pièce parce que je la trouve formidable, et que voilà, c'est un coup de cœur aussi pour Suzanne Joubert, qui est une auteure de théâtre que je suis depuis des années, qui a été très longtemps à Marseille au théâtre des Bernardines, où elle a travaillé aux côtés d'Alain Fourneau, qui a publié déjà plusieurs textes, dont plusieurs au Solitaire Intempestif. Ce texte Showroom, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie, on va dire. Elle et lui, un appartement d'une cité de banlieue, il y a le caoutchouc dans la salle à manger et il y a la paella qui réchauffe dans la cuisine, et c'est une scène du quotidien, on pourrait presque dire que c'est au départ un théâtre du quotidien, et c'est sinon une scène de ménage, du moins la répétition d'une scène d'ennui domestique profond, on va dire. Et donc, dans la cuisine, la paella, elle commence à attacher. Et cette paella qui attache va devenir un leitmotiv de la pièce, puisque ça va être l'obsession de la paella est en train d'attacher, et qu'est-ce qu'on fait? Et derrière tout ça, alors il faut préciser aussi que lui, il est habillé, il est sur le canapé, vautré sur le canapé, en costume de torero. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Il se passe une sorte de comédie d'un quotidien à la fois très drôle et parfaitement cauchemardesque, qui est la répétition donc du même et du même et du même, qui traduit d'ailleurs par la répétition des mots, des phrases. Il y a comme ça une dimension un peu à la Duras de l'écriture de Suzanne Joubert. Et en même temps, c'est férocement drôle, et tout va s'effondrer complètement C'est-à-dire que on va vers l'explosion finale et derrière la paella qui réchauffe et qui brûle dans la cuisine, il y a tout simplement la planète en train de flamber. Donc il y a une ambition énorme de la pièce, si on veut, et en même temps il y a une dimension totalement comique assumée, c'est de la de une malice noire à l'œuvre. C'est une pièce courte et je ne doute pas que Barry Vessière et
Arnaud Soris
s'en emparent avec délectation et j'espère en tout cas que ce spectacle connaîtra une suite, une tournée et qu'on pourra peut-être même en reparler.
J'espère bien. Showroom sous-titré Nouveau drame. Vous ne l'aviez pas dit. Ouais, ce texte oui. De Suzanne Joubert, publié au Solitaire Intempestif, et dès demain, ce sera du 25 au 29 avril, cette création au théâtre Joliette Minoterie à Marseille.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Parlons à présent de la pièce de Denis Kelly au titre mystérieux, l'abattage rituel de Georges Mastromas, que Chloé Dabert a mise en scène et qu'on peut voir en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris. La jeune metteur en scène a été lauréate du prix Impatience en 2014 avec une autre pièce de Kelly, Orphelin. Elle est aujourd'hui, Chloé Dabert, artiste associée au CND d'Angers et au 104. Denis Kelly, lui, c'est un auteur qui joue dans le monde entier, qui suit dans ce spectacle la mue d'un loser renonçant un jour à ses bons principes pour devenir enfin un winner, on va dire ça comme ça, puisque le bien lui a pas vraiment réussi. Pourquoi pas, en effet, tenter le mal. Avant cela, nous allons vivre par éclat aussi la jeunesse de Georges.
Georges Mastromas fut conçu le 15 juillet 1972. C'était une belle et douce nuit d'été. Pas trop chaude, avec une légère brise provenant de fenêtres restées ouvertes. Il avait plu dans la journée, mais là, l'air était limpide et la nuit avait une douceur qui ressemblait à une... Le rapport sexuel ne fut pas particulièrement plaisant. Mais pas particulièrement désagréable non plus. Le père de Georges n'était pas d'humeur. La mère de Georges n'était pas d'humeur. Mais ça faisait quelque temps qu'il n'avait pas fait l'amour, si fait que l'acte avait été déclenché par une sorte de culpabilité muette et partagée. Le père de Georges voulut se retirer à temps, un événement récurrent de leurs ébats, mais comme il avait dû fournir beaucoup d'efforts pour rester concentré, il s'était emballé et n'était pas très sûr quant à l'exactitude de l'instance finale. Il ne dit rien à sa femme. Les chromosomes Y de Georges foncèrent vers ses chromosomes X à la vitesse de... L'éclair ? Non. 0,00004 km/h. Et le soir suivant, la mère de Georges était dans la salle de bain à sa toilette nocturne quand Georges vint à exister. La gestation fut normale. Et le 31 mai 1973, Georges fut livré au monde par voie de césarienne. Mesure de précaution.
Voilà, maintenant que Georges est de ce monde, ça va pouvoir commencer. Mais il y a tout ce début, en effet, long, prologue, narré. Faites un petit signe, Marie-Joëlle Sirache, mais je vais commencer par René Solis, parce qu'on inverse les plaisirs d'une dispute à l'autre. René Solis, l'abattage rituel de Georges Mastromas.
Alors, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, qui est peut-être lié au court-circuit, lié à l'actualité politique. Mais j'ai vu ce spectacle mercredi dernier, donc pour la première, au Théâtre du Rond-Point. Et ce matin... En préparant un peu, on prépare quand même un petit peu.
Mais j'espère bien.
Dispute.
Comment ça, un petit peu,
j'espère. Il m'est arrivé quelque chose de très étrange.
Je ne me rappelais plus de rien.
C'est que je n'avais plus aucun souvenir de ce spectacle. Mais plus aucun. Alors, j'ai essayé de me concentrer. Alors, j'avais évidemment le dossier. Donc,
vous ne prenez pas de notes, vous, pendant les spectacles.
Je ne prends pas de notes, ou très rarement.
Je vous ai
très peu.
Jamais vu.
Très peu. Ouais. Et mais j'avais le dossier à portée de main, donc il me suffisait de le regarder. Et je me suis dit, tiens, je vais faire cet exercice de mémoire. Concentrons-nous, c'est pas possible. J'ai vu ce spectacle, je suis pas sorti particulièrement indigné, donc essayons. Et je me suis souvenu très bien de deux choses. mais qui n'avait pas de lien direct avec, enfin, qui avait un lien indirect avec le spectacle, c'est que pendant ce fameux prologue, mais je me souvenais pas du prologue, un téléphone portable a sonné dans la salle, et ce téléphone portable était celui du directeur du Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes. Et donc, le comédien, au demeurant plutôt très bon, qui faisait ce prologue, s'est arrêté et a dit, voilà, oui, il y a un téléphone portable qui vient de sonner, mais comme c'est le directeur du théâtre, il a le droit. Et donc, tout le monde s'est esclaffé. Bon, voilà. Donc ça, c'était, je me souvenais de ça. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait Marie-Armelle de Guy et que je la revoyais en scène, comme ça. Une comédienne qui a beaucoup de présence. Et donc, j'avais la présence, comme ça, de Marie-Armelle de Guy. Mais je ne me souvenais de rien d'autre. Et puis, alors... En regardant, évidemment.
Mais il faudrait que vous nous racontiez la suite de votre soirée, parce que si vous avez eu un trou noir, c'est peut-être en raison des événements qui s'en sont suivis.
Il s'est rien passé. Il y avait évidemment des discussions sur quoi voter, comment, des choses comme ça. Mais, et puis alors, donc, j'ai retrouvé la mémoire, en regardant le dossier. Et, bon, il n'y a pas de mystère. Si j'ai oublié, c'est que je l'avais déjà oublié très vite en sortant. C'est-à-dire que le début, comme ça, ce prologue plutôt agile, plutôt amusant, plutôt bien mené par le comédien, ça donne envie. Voilà, on se dit ah. Et puis quand on lit, et j'avais lu aussi le dossier, cette histoire que vous avez résumée du type qui un jour devient mauvais, qui se transforme de loser en winner, et c'est lié évidemment à toutes les problématiques actuelles, économiques, la finance, etc. On s'est dit tiens, il y a là une bonne idée, un sujet en tout cas. Et puis j'ai tout simplement l'impression que la pièce elle est pas bonne du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien. Où elle va, de quoi elle parle. Alors, je sais pas, peut-être que la mise en scène n'est pas arrivée à débrouiller dans le texte ce qui pouvait être le plus intéressant. J'en suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on est toujours entre deux eaux, entre comédie, psychodrame et en même temps distanciation. Il y a une dimension comme ça, un peu brechtienne des choses. On invite les spectateurs à prendre du recul, à ne pas croire tout ce qu'ils entendent, enfin, etc. Mais je dois dire que j'ai suivi ça en me disant, mais n'importe quelle série télé avec un sujet pareil, c'est quand même 10 000 fois plus fort, 10 000 fois mieux, 10 000 fois plus intéressant, et surtout 10 000 fois plus théâtral. Parce que là, il y a un enjeu théâtral qui est très mince. Donc, il y a ce type qui devient un salaud, bon, très bien, et on suit les pérégrinations du salaud, il finit par, on révèle pas la fin, mais ça se termine mal et je dois dire que je trouve remarquablement peu intéressant.
c'est remarquable en effet. Marie-Josée Sirache, cet abattage rituel de Georges Mastromas.
Alors je précise que je n'avais pas demandé la parole parce que comme René, je suis sortie, je ne me suis souvenue de rien. C'est-à-dire que ce spectacle m'a laissée totalement indifférente. Je ne suis pas sortie indignée, mais agacé parce que avec le sentiment d'avoir perdu quand même du temps. Cette pièce pour moi ne raconte rien. Le début, il y a un prologue, un pré-prologue. Enfin, c'est-à-dire il y a l'enfance, mais on va même jusqu'à avant la conception de ce héros, de ce personnage.
Et ça c'est un peu rigolo quand même.
Alors c'est la seule partie un peu drôle. Et ensuite ça s'étiole, enfin ça tombe à plat et on voit tout venir. Comment le gentil garçon entre bonté. Et c'est quoi la question qui revient sans arrêt, bonté ou lâcheté? Voilà. Comment son cœur balance, alors non, il est trop bon, et puis finalement, un jour, il cesse d'être bon, et alors il est méchant, et il est... voilà, et ça se retourne contre lui, évidemment, parce qu'il y a une morale. J'ai trouvé ça d'un ennui. Pardon, mais je sais pas. Alors c'est inégal dans la distribution. Je trouve que le conteur, enfin, est extrêmement drôle. Bon, distanciation brechtienne, parfois c'est un peu des facilités aussi. Il y a des trucs un peu gaguesques. Ça fonctionne bien la première demi-heure et après, boum, ça. Voilà.
Vous vous souvenez-vous avoir vu Marie-Armelle Le Guy? Vous étiez bien
au même. Oui, absolument.
Même,
elles sont bien les filles d'ailleurs.
Bénédicte Cerruti, c'est quand même une très belle comédienne.
Oui, j'aime bien les filles. Très non, il n'y a pas de souci. Oui.
Bon, souci de texte que vous ne défendrez pas, René Solis, ici. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que ce n'est pas la peine de faire beaucoup plus long sur cet abattage rituel de Georges Mastromas que Chloé Dabert met en scène. Traduction de Gérard Watkins, on parlait de la Commune. Voilà un film à voir.
Celui de Peter,
Watkins.
Peter Watkins, super, ouais, qui est magnifique.
Hein, ouais, non, magnifique. Mais comme ça, ça permet de
transition.
Qu'on peut voir d'ailleurs à l'occasion d'une très belle exposition au musée de l'armée aux Invalides sur les guerres de 1871.
Ouais. Et ça, c'est un film formidable.
Des Peter choix Watkins. De films sur la commune, sur cette période-là, assez intéressants, notamment le film de Peter Watkins.
Bon, s'il y a celui-là, c'est l'essentiel.
Absolument, c'est,
celui
c'est ce que je me suis dit. Je me suis
bon,
dit,
très mais bien. Donc je reviens au fils. Hein, la traduction de ce texte de Denis Kelly est signée Gérard Watkins. C'est un texte qui est publié à l'Archiditeur. Il est en tournée, puisqu'en ce moment, il est donc jusqu'au 14 mai au Théâtre du Rond-Point à Paris. Puis ce sera à la scène nationale La Passerelle à Saint-Brieuc les 16 et 17 mai. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Estelle Savastin, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir pour en connaître enfin la réponse. Et c'est Justine Dibling qui va mettre fin à ce suspense insoutenable. Le rappel de la question et réponse ensuite.
L'exposition Tous de sang mêlé s'inspire des travaux d'un des plus grands sociologues britanniques, figure centrale des Cultural Studies, souvent considéré comme le Bourdieu britannique. Qui est-il ? Et la réponse était Stuart Hall.
Cette exposition est à découvrir au MacVal, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry. Excellente maison. On fait gagner ce soir des DVD, un coffret DVD Barbet Schroeder, 5 films, Général Idi Amin Dada, Autoportrait, Maîtresse, Coco le Goré qui parle, Tricheur et La Vierge, que demander de plus, La Vierge des Toires, pardon. C'est édité par Carlotta. Quelle est la question pour gagner ce magnifique coffret, Justine ?
Quelle est la société de production cinématographique que Barbet Schroeder a créée avec Eric Rohmer en 1962.
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de la dispute passée par Boris Pinault.
Hello.
Et ce soir, le coup de fil de la dispute est passé à la Garance, scène nationale de Cavaillon pour le spectacle Lettres jamais écrites, que l'on pourra voir dans la région jusqu'à la fin du mois. Estelle Savasta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous signez donc cette pièce, vous êtes auteur et metteur en scène, fondatrice en 2005 de la compagnie Hippolyte à Mal au cœur et artiste compagnonne de la Garance. Alors bref, historique de votre création, à la rentrée 2015, vous entamez une résidence au lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon. Vous proposez alors aux adolescents de rédiger anonymement la lettre qu'ils n'ont jamais osé écrire. Certaines de ces lettres sont retenues pour correspondance avec des auteurs et la transposition en janvier dernier de ces échanges sur scène a permis la création de la pièce Lettres jamais écrites. Alors le point de départ de la résidence était de mettre en place avec les adolescents un atelier de recherche sur la notion de désobéissance. Comment est-ce que selon vous les recherches qui ont eu lieu alors ont nourri par la suite le travail épistolaire ?
En fait, vraiment, ça a été deux recherches tout à fait parallèles. Les lettres jamais écrites, ça ne devait pas être un projet. C'est juste, comme je savais qu'on avait une année à vivre ensemble et qu'elle allait être intense, j'ai proposé cette écriture, ce temps d'écriture-là juste comme un moyen de se rencontrer, un moyen de commencer à se raconter des histoires et de savoir à qui j'avais affaire. Et c'est seulement parce que, quand j'ai découvert la puissance de ces lettres, que je me suis dit que c'était vraiment dommage de rien en faire. Mais c'est un projet qui est arrivé assez tard, en fait. On a d'abord travaillé toute une année juste pour le plaisir d'écrire cette lettre jamais écrite, sans projet autour de ça. Moi, ce qui me touche vraiment dans ces lettres, c'est que certes, elles parlent d'adolescence, mais il me semble qu'il n'y a rien dans ces lettres qui ne nous touche pas aussi adultes. C'est des lettres qui parlent du manque, qui parlent d'amour mal fagoté, de deuil, et aussi de saut dans le vide et d'envie.
Alors j'ai pu lire que vous aviez veillé à ce qu'à aucun moment votre vision ou vos mots d'adulte n'interfèrent dans le processus. Qu'est-ce qu'il fallait préserver ? Qu'est-ce qui risquait chez les adolescents d'être contaminés ?
Alors ça a surtout été dans le travail de la désobéissance que je me permettais aucun commentaire et aucune réponse d'adulte. Mais j'ai l'impression simplement que la parole, elle n'est pas la même, évidemment. Si on sait qu'un adulte qui a 20 ans de plus, et donc 20 ans d'expérience de plus, peut donner son regard. Et moi, je voulais qu'on puisse se permettre d'être dans un regard très, très, un regard du présent.
Alors, une vingtaine d'auteurs, dont par exemple Marie Desplechin ou Fabrice Melchiot, s'est prêté à l'exercice de répondre chacun à une ou plusieurs lettres d'adolescents comme s'ils en avaient été les destinataires. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces auteurs ?
Dans un premier temps, j'ai choisi que des auteurs que je connaissais personnellement, parce que je trouvais que les lettres des ados étaient tellement pleines de confiance, mais aussi de fragilité, que je voulais connaître les mains entre lesquelles j'allais déposer ces lettres-là.
Alors sur scène, ce sont des comédiens qui rendent compte, donc dans la pièce, des différentes correspondances entretenues. Je me demandais, est-ce que la question de faire monter les auteurs des lettres, les adolescents donc sur scène, s'est posée à un moment donné de la conception du projet ?
Non, on entend leur voix. En fait, on est parti du principe, comme c'est vraiment une correspondance entre une réalité, celle des ados qui écrivent des vraies lettres à une fiction, puisque des auteurs répondent comme s'ils étaient les destinataires de ces lettres. On est parti du principe qu'on lisait ou qu'on entendait les vraies voix des ados pour la réalité et qu'on jouait la fiction, la réponse.
Alors la pièce est une forme légère que vous avez voulu jouable à peu près partout. On pourra la voir autour de Cavaillon jusqu'à la fin avril dans le cadre du programme Nomade du Théâtre La Garance. Quelle relation au public est-ce que vous avez souhaité mettre en place sur ce projet en particulier ?
Il me semblait très très important de préserver l'intimité. Je crois que c'est pas du tout un projet qui est fait pour être joué en frontal. C'est un projet qui est fait pour une toute petite jauge. On joue au milieu des spectateurs. C'est un quadrifrontal. Et ce qui est particulier, c'est que c'est le public qui choisit chaque soir les lettres qui vont être jouées. Donc les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Au total, il y a 15 lettres et autant de réponses. Et c'est le public chaque soir qui choisit les 5 lettres ou 6 lettres qui vont être mises en jeu.
Alors j'ai lu aussi que parfois les lettres étaient remises directement sous pli au public. Pourquoi est-ce que certaines lettres doivent être lues dans une intimité peut-être plus prononcée et d'autres doivent être déclamées sur scène ?
Moi j'ai eu le sentiment que certains auteurs avaient vraiment répondu de manière très très personnelle à des ados et qu'il y avait certaines lettres qui étaient des petits cadeaux qu'on a besoin d'être tout seul pour ouvrir. C'est l'impression que ça nous a fait assez rapidement.
Eh bien, merci beaucoup Estelle Savasta. Lettre jamais écrite sera jouée jusqu'à la fin du mois dans le Luberon. Mercredi à Lille sur la Sorgue, jeudi à Cadenet, vendredi à Cucuron et samedi soir à Cavaillon. Et d'autres dates sont à retrouver sur le site de votre compagnie Hippolyte à Mal au cœur. Merci et belle soirée à vous.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux séries. Nous serons accompagnés d'Iris Bray, Romain Burel et Antoine Guillot. À notre affiche, nous parlerons demain donc de 10%, la saison 2 de Fanny Herrero, en cours de diffusion sur France 2. Nous parlerons de The Americans, la saison 5, la série de Joe Weisberg, en cours de diffusion sur Canal Plus Série. Et puis nous parlerons des Témoins, saison 2, série de Marc Herpoux et Hervé Admar, bientôt disponible en coffret DVD. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.